Radio Foot International.
Olivier Prompt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International. C'est jeudi, le week-end est en approche et en Afrique, il va être de pure folie. Cinquième journée, mesdames, messieurs, de qualification à la CAN 2019, a priori, toujours prévue au Cameroun, dans 7 mois, jour pour jour. C'est-à-dire du 15 juin au 13 juillet pour les meilleurs. Cinquième journée donc, l'avant-dernière. Alors forcément, tout s'accélère. 5 qualifiés sûrs et certains pour l'heure. On pourrait en compter 20 dimanche soir sur 24 tickets, on le rappelle, à prendre pour cette édition 2019. Et puisqu'on ne peut pas parler de tous les matchs, eh bien nous avons fait des choix et nous les assumons. Ceci pour prévenir les esprits chagrins. Sachez néanmoins que tous les groupes seront récapitulés et qu'il est envisagé de devoir surveiller à la fin de l'émission pour voir si vous avez bien suivi, et c'est la dame qui corrigera les copies, c'est promis. Gros plan donc dans les 30 minutes à venir sur un alléchant Maroc-Cameroun, un Saint-Pierre-Emerick Aubameyang Gabon-Mali, un bouillant Togo-Algérie, un sulfureux Congo-Congo, un revanchard Guinée-Côte d'Ivoire et un capital Angola-Burkina Faso. Nos africanistes Franck Simon et Nabil Djellit. Bonjour messieurs, est-ce que vous validez ces choix arbitraires?
On valide Ali Lodzik pour vous répondre.
on valide bien entendu. Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Bonjour.
Après cette longue partie africaine, retour en Europe pour envisager l'affiche de demain vendredi en Ligue des Nations, une sorte de finale du groupe 1 à Rotterdam, Pays-Bas, France. Sherif Guémour nous expliquera pourquoi il croit à ces Pays-Bas qu'il aime tant. Bonjour Sherif.
Bonjour Olivier.
Nous lui expliquerons, ou pas, pourquoi il va sans doute devoir patienter encore un peu, tant les champions du monde disputent très bien la finale à 4 en juin prochain.
Il y a les chances.
Champion du monde, champion des nations, ça claque, ou pas. Salerno, Finzel, Guérin et un stagiaire Samuel Marot pour préparer tout ça. Allez Radio Foot, on y va. Vous comprenez pourquoi je cite Laurent Salerno, c'est qui bosse. Vous avez vu, c'est jingle, inventif, ouais. Créatif.
Mais il a
très
sympa.
Très gros moyens.
Ça transpire. Hein.
La direction a compris tout ça, il a très gros moyens, il a au moins 5 disques. place à la CAN, donc, messieurs, et on a envie de dire, quel week-end. Et la première question, notamment pour les africanistes, et Sherif Guémour peut très bien en faire partie, ça fait envie, non, ce week-end-là? On est dans le vif du sujet, Franck.
Franchement, c'est aussi pour ces moments qu'on aime ce métier, c'est-à-dire de vivre des week-ends aussi riches. Il y a 24 affiches, et effectivement, vous le rappeliez, ils peuvent être 20 qualifiés d'ici dimanche soir. Alors là, on va évoquer des affiches. Mais on a envie déjà d'avoir les images, de savoir un petit peu, d'avoir toutes ces saveurs de ces grands matchs, ces affiches que vous avez choisies et qui me semblent intéressantes. Et puis, c'est vrai que c'est un moment capital. C'est un moment capital. Il y a des nations qui peuvent revenir. Il peut y avoir des premières qualifications aussi. Il y en a déjà une en octobre. Donc, que des bonnes raisons d'en parler tout à l'heure.
Non, mais c'est aussi le format, avec maintenant 24 équipes qualifiées, qui nous permet aussi d'avoir deux équipes qualifiées par groupe. Donc, des éliminatoires plus passionnants quand un seul pays majeur, par exemple, plie les débats assez rapidement. Aujourd'hui, quand vous êtes troisième, vous pouvez encore y croire. Alors que quand vous étiez troisième avec un seul qualifié par poule, c'était cuit, quoi. Donc c'est vrai que pour le coup, on peut toujours discuter du fait qu'il peut y avoir un nivellement par le bas ou que il y ait trop de participants entre guillemets. Mais par rapport aux éliminatoires, il y a déjà un effet bénéfique, c'est que c'est beaucoup plus passionnant.
Ouais, et le suspense, c'est quand même maintenu jusqu'à au moins la fin, quoi.
Sherif, vous allez regarder?
Ouais.
Et franchement, c'est plus passionnant que la Ligue des Nations. Ce week-end.
C'est pas totalement. Ouais, ce week-end. Non, pour la journée du 16, oui. Là, je vais regarder d'assez près. Parce que là, c'était une journée, où justement, il y avait toutes ces affiches. C'est les affiches que j'avais repérées. Puis, voir d'un peu plus près des équipes qui m'ont surpris, comme Madagascar, même s'ils sont déjà qualifiés, hein.
Ouais, bien sûr. On rappelle.
Je vois des équipes à la traîne aussi, donc, j'étais un peu surpris. Enfin, on va pas citer tous les résultats, mais,
Il y a un récapitulatif.
Voilà.
Oui, on rappelle qu'il y a déjà 5 qualifiés. On va les dérouler. De toute façon, on va faire simple pour que vous compreniez, tous ceux qui nous écoutent. On va faire groupe par groupe. Dans le groupe A, on va pas y revenir. Le Sénégal et Madagascar, on l'a dit, c'est plié, sont déjà qualifiés. Et le groupe B, puis ça tombe bien, c'est un match dès demain, vendredi, à 19h, temps universel, du côté de Casa. On a un Maroc,
par exemple
Cameroun qui vaut cher, notamment pour les Marocains. Alors, on rappelle que dans ce groupe-là, le Cameroun, a priori pays organisateur, est déjà qualifié, donc ce sont des résultats qui comptent pour du beurre. Donc il n'y aura qu'un seul autre qualifié.
A priori.
Hein, on est obligé de mettre cet a priori.
Voilà, ouais, faut mettre a priori,
au moins jusque fin novembre, du côté d'Accra, aux alentours du 29-30 novembre, on devrait être fixé si la CAF tient ses promesses. Ça ne veut pas dire qu'on a l'impression qu'elle ne tient pas, mais
si bon, Cameroun voilà. tient ses promesses, puisque
oui.
c'est ce que
enfin, c'est si tout ça n'est pas déjà. Oui. Enfin bref, on va avoir l'occasion d'y revenir. Maroc Cameroun, une victoire pour les Marocains et ce serait bon. On rappelle que le Cameroun est en tête avec 8 points, le Maroc 7 points, le Malawi 4 points, les Comores 2 points, Maroc Cameroun. Bah oui, c'est quand même chaud pour Hervé Renard. Ce serait bien de se qualifier dès maintenant.
Bah c'est une affiche de prestige aussi. C'est quand même deux poids lourds du football africain, deux habitués des Coupes du Monde. Le Maroc qui est quand même resté sur le contenu, je dis bien, sur une belle Coupe du Monde, mais qui est quand même en difficulté sur ces éliminatoires, même si ils ont 7 points. Je rappelle quand même ce fameux Maroc Comore voilà. qui s'est joué pardon.
2-2, ouais,
c'est... Non, pas celui du retour.
Ah, oui,
d'abord
oui.
l'aller.
Ouais,
l'aller pour moi qui vaut son pesant d'or, parce que très sincèrement, ça s'est joué dans le temps additionnel. On va pas revenir ici sur le débat de l'arbitrage. On a eu malheureusement la finale aller de la Ligue des Champions qui nous a rappelé que l'arbitrage pouvait avoir un impact sur les résultats. Et le Maroc a terriblement galéré, que ce soit à l'aller et au retour face aux Comores. Ensuite, on rappelle également que le Maroc fait sans son capitaine Mehdi Benatia, qui pour l'instant s'est mis en retrait ou entre parenthèses.
Il n'était pas question qu'il revienne. Moi, j'ai lu qu'il était question qu'il revienne sur ce match-là, qu'il avait joué finalement avec la Juve. Et a priori, on annonçait son retour.
Si vous voulez mon sentiment, mon cher Olivier, il reviendra s'il doit revenir à la CAN. Tout simplement parce qu'à mon avis, il doit se dire que la concurrence est forte du côté de la Juve et que ça l'arrange pas forcément toujours d'aller en campagne africaine. Et s'il doit revenir, je le perçois de la sorte.
Ouais, c'est une discussion à trouver effectivement avec le sélectionneur national, dont on sait qu'il l'apprécie infiniment. Donc après, il peut très bien lui donner entre guillemets la permission, l'autoriser à différer son
retour.
Mais enfin,
il y a eu des soucis quand même avec lui en fin de Coupe du Monde, et il faut le rappeler.
C'est un peu facile de venir quand l'équipe est qualifiée.
Voilà, ouais, il a quand même fait il a quand même payé de sa personne, il a fait des campagnes.
Voilà, il s'est pas caché.
Il s'est pas caché, on peut pas lui reprocher d'accourir au bruit de la victoire et de la qualification. Je comprends votre point de vue, mais en même temps, c'est aussi un joueur
capitaine majeur, il joue à la Juve.
Le Cameroun va jouer le jeu forcément.
Bah bien sûr,
même s'ils ont des absents importants. Mais oui. Et c'est pas de maintenant que ça date. Il y a un problème, je pense, d'équilibre. Il y a un problème de trouver une équipe type chez les Lions Indomptables actuellement pour Clarence Seedorf, Kluivert et Joël Epalé. Il y a des absents importants, Vincent Aboubakar, dont on sait que
oui, ça,
voilà,
contre,
voilà,
ouais.
ça c'est une absence majeure, cruelle, majeure.
Voilà.
Mais dans les
comme Benatia pour les
voilà.
pour les Marocains.
On sait que ça va être solide défensivement, mais c'est après où j'ai des doutes sur l'expression collective. Quand ils vont avoir le ballon, ce qu'ils ont montré notamment contre le Malawi en octobre n'était quand même pas folichon. On a eu l'occasion de les suivre à la télévision et c'était pas génial. Et c'était pas ce Cameroun qu'on a pu connaître par le passé. Bah, ça rajeunit forcément. Il y a un brassage, c'est-à-dire qu'il y a une rupture entre l'équipe championne d'Afrique et l'équipe actuelle. Il reste quelques cadres, mais c'est plus exactement ça. On se disait à l'époque c'est un one shot. Il faut reconstruire très vite parce que peut-être que ces points seront nécessaires, on ne sait jamais.
Ça peut être chaud pour les Marocains, parce que on rappelle la dernière journée, elle sera en mars. Les Marocains iront au Malawi. Imaginez un match nul entre le Maroc et le Cameroun, ce qui veut dire que les Marocains compteraient 8 points. Les Malawites battent les Comores, ils reviendraient à une longueur en accueillant les Marocains lors de la dernière journée.
Ils vont
vraiment mieux pour Hervé Renard, Patrice Baumel et compagnie gagner vendredi à Casa. Hein.
Ça va pas être un match si simple que ça, parce que je pense que pour le climat également autour de la sélection camerounaise, même si effectivement ce qui compte c'est la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun ou pas, j'imagine un Cameroun quand même meilleur qu'au Comores par exemple, parce que les conditions étaient pas forcément évidentes. Après, c'est vrai que l'absence d'Aboubakar, elle est là. Alors, j'ai pas fait attention, mais il a repris Ntep ou pas par exemple?
Il me semble qu'il était dans le groupe. Mais bon, t'as d'autres joueurs, hein. T'as les
Toko, Toko et Kambi. Voilà, donc ils ont quand même,
ils ont
des arguments quand même qui sont intéressants offensivement. Il faut voir l'intégration des nouveaux. Et puis, il faut voir si, ce collectif s'affine et quel peut pas parler forcément d'équipe type, mais moi j'ai envie de savoir Clarence Seedorf, c'est quoi son équipe concrètement. Et là
t'as pas de match de entre guillemets, t'as pas vraiment de match de préparation ou de match amicaux, même
c'est
si
ça peut être obligé,
t'es obligé de les jouer quand même à fond et quelque part ça c'est un peu perturbant quoi,
avec une méconnaissance totale de l'Afrique, on le rappelle hein,
mais là Casablanca ça devrait aller quoi. Pour lui, enfin, je veux dire.
Quand tu vas au Malawi, aux Comores,
bon, Clarence Seedorf, il débarque, quoi.
Arrivé dans ces conditions-là, on connaît votre amour pour les Néerlandais, Seedorf en Afrique, ça vous a étonné, Sherif Guémour, lorsqu'il a été nommé?
Non, il y a une tradition, elle est pas énorme, mais bon frère avait fait médaille d'or avec le Nigeria, il me semble. Ouais. C'était un Néerlandais. Ouais,
avant lui, il y a eu Clemens Westerhoff aussi.
Donc c'est pas nouveau par rapport à jouer des sélectionneurs suisses en Afrique là, pour moi c'est nouveau.
Il y en a eu un seul, c'est Raoul Savoie. Il y en a pas.
Voilà.
Voilà, il y a que lui.
Mais tout c'est vrai que le monde a le droit de tenter sa chance après tout.
Les sélectionneurs néerlandais ont fait plutôt du bon boulot en Afrique en général avec les sélections.
Après au Maroc, on va rappeler également que le sélectionneur des U23 et des équipes des catégories jeunes pendant très longtemps et aujourd'hui il est en Australie, c'était Pim Van Berck pour l'excuse. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est un garçon qui a travaillé au Maroc et il a même été question qu'il prenne l'équipe A. C'est comme quelqu'un qui a un CV, voilà, qui est quand même un vrai.
C'était pas un hasard que ça soit un Néerlandais parce qu'on sait qu'il y a une forte communauté
marocaine
de Néerlandais d'origine marocaine. On va en parler tout à l'heure de l'équipe des Pays-Bas.
Maroc, Cameroun, vendredi, 19h temps universel. Dans le groupe C. Le groupe C, alors là, on a une très, très grosse affiche. Ah. Ce sera samedi, 15h temps universel. Un Gabon, Mali qui va valoir très cher. On rappelle, pour l'instant, Mali, 8 points. Gabon, 7 points. Burundi, 6 points. Soudan du Sud, si vous nous écoutez, on vous fait un petit coucou amical. 10 buts encaissés, 0 marqué, 0 point. Le Soudan du Sud sert de faire valoir dans ces matchs-là.
Ils apprennent, Olivier.
Ça veut dire que les Burundais ont de fortes chances d'aller prendre 3 points du côté du Soudan du Sud.
De Juba.
Ça veut dire que le Burundi va revenir dans la course de l'une des deux équipes. L'équipe qui perdra, ou même s'il y a match nul, entre le Gabon et le Mali. Les Maliens derrière joueront les Sud-Soudanais. Donc ça vaut très cher ce match-là pour le Gabon. À domicile, où l'on sait que le public n'est pas vraiment présent. Ils ont joué à guichet zéro, alors que c'était gratuit. Le dernier match amical, c'était face à la Zambie, quelque chose comme ça, je ne sais plus.
Non, il y avait, entre-temps, il y avait aussi un appel pour le dernier match. Il y avait un appel au public.
C'était gratuit et le stade était
contre le Soudan,
vide.
Contre le Soudan du Sud, donc les journées miroirs.
Et cerise sur le gâteau, Pierre-Emerick Aubameyang s'est fait porter pâle. Il y a un mot du médecin, hein, attention tout de suite, il y a un mot du médecin, paraît-il, du médecin d'Arsenal, qui dit qu'il a mal au dos au pépère. Donc résultat, il est pas là et il va quand même falloir battre le Mali. Ça peut être très très chaud à Libreville.
Ça va être très chaud parce que la pression elle est sur eux, vous l'avez expliqué, plus que sur les
Aigles. Il faudra aller au Burundi après hein, pour les Gabonais qui ont fait match nul chez eux, match nul.
Voilà,
match nul chez eux, match aller.
Le Burundi, les Intamba, les Hirondelles, c'est une équipe aujourd'hui qui est constituée en plus à 100% de joueurs expatriés. C'est plus le temps où on avait des joueurs qui venaient du Vitalo par exemple ou de l'Interstar. Mais pour revenir à cette affiche de Libreville au stade de l'Amitié sino-gabonaise qu'on connaît tous, c'est compliqué parce que effectivement le public a été peu convaincu par la victoire sous la pluie contre le Soudan du Sud, ce 3-0, même si voilà, il fallait qu'il gagne. Et on savait très bien que sur ces deux matchs, les Panthères allaient revenir en fait à hauteur du Mali. Ils étaient très mal partis, on savait que le Soudan du Sud leur permettrait de faire un 6-6, ce qui s'est passé. Maintenant, il y a le Mali en face avec Magasouba, sélectionneur, on va dire intérimaire, mais c'est pas la première fois. Une jeune équipe, une équipe très solide, une équipe jeune, une équipe qui s'appuie aussi sur des garçons qui ont brillé dans les compétitions internationales de jeunes.
Oui, puis, très fort chez les jeunes.
Et
toujours,
puis vous avez des joueurs comme Marega par exemple devant. Quand vous avez les garçons qui viennent de Salzbourg, Aïdara, Samasekou, tout ça, c'est pas mal. Hein.
Y a de quoi faire. Hein,
voilà, il y a de quoi faire. Il y a du talent. Il y a beaucoup de talent et en face, cela dit, ça peut libérer un Denis Bouanga.
Alors justement, je vous propose d'écouter. Alors on se bouscule pas au portillon pour s'exprimer du côté de la Féca Foot. on est habitué.
Daniel,
c'est le contraire
Cousin,
qui serait étonnant. Moi, je vous propose d'écouter celui qu'on nous a envoyé hier, le porte-parole de la fédération. On salue Guy Robert Binguma.
Nous n'en faisons pas un drame. Le Gabon a bien gagné des matchs sans certains joueurs, y compris lui. Je vous signale que si M. Aubameyang ne respecte pas cette procédure-là, nous n'en faisons pas un drame. Blessure diplomatique, Je n'y crois pas. Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur libre. Il peut venir en équipe nationale. Il peut refuser de venir en équipe nationale. Toujours est-il que nous allons saisir son club pour avoir la version exacte.
Bon. Il peut être sanctionné dans l'avenir?
Le comité exécutif va se réunir à ce sujet et se prononcera à temps opportun. Nous avons gagné plusieurs matchs sans M. Aubameyang. Et nous sommes confiants pour le match du samedi. Il règne la sérénité en ce moment au niveau de l'équipe nationale des Panthères.
On n'est pas obligé de le croire. Il est au micro de Fritz Koum, Guy Robert Bingouma.
Salut Fritz. Ouais.
On salue Fritz. Et on salue pourquoi pas Monsieur Bingouma, hein, qui était dans service commandé, on va dire ça comme
ouais.
ça.
Ah ouais, c'est un feuilleton, quoi. C'est saison 1, saison 2, saison 3, saison 4.
Il fait ce qu'il veut, c'est lui le patron.
Qu'il soit géré autrement, je peux l'entendre, mais alors il faut le faire avec transparence et clarté, quoi.
Pourquoi lui plus que les autres? C'est une de mes questions. J'en ai d'autres, hein, évidemment, par rapport à Pierre-Emerick, que je connais un petit peu, que j'ai connu tout minot quand j'allais voir son papa à l'époque, Pierre Aubame. Mais je n'arrive pas à saisir, parce qu'on parle d'un patron, mais c'est un patron absent. C'est un patron qui, quelque part, peut pénaliser, parce que on sait l'importance de ce garçon pour cette équipe nationale. On sait que, quand il est sur le terrain, c'est pas pareil pour l'équipe en face, que tu mets deux ou trois gars sur lui pour le surveiller, et ça peut profiter à quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Ça a souvent permis à d'autres de pouvoir s'exprimer. C'est vrai qu'il a pas forcément été formidable lors de ses dernières sorties avec les Panthères, mais toujours est-il que, bah oui, très bien, une gestion à part parce qu'il est à part.
Mais c'est mieux qu'il soit là, même par rapport à l'adversaire.
Mais bien sûr. Donc comme il s'exprime pas vraiment, à part les réseaux sociaux, tout ça, bon, eh ben voilà, on s'interroge.
On spécule. Comme il a un pédigré, il a un CV, il a des antécédents. On sait très bien qu'à un moment c'était au menu à la carte, c'était le Club Med. C'est comme l'histoire de Pierre Leloup.
Mais Nabil, pourquoi il dit pas une fois pour toutes, j'arrête l'équipe nationale, je me consacre qu'à mon club.
Alors je viens à la CAN si vous vous qualifiez, les gars.
Voilà.
Allez, on avance.
Faites le boulot.
Oui.
Non, je voulais savoir s'il y avait une sanction, si jamais le Gabon se qualifiait.
Ah bah il peut y avoir une sanction sportive.
Ouais.
Mais s'il a plus mal au dos, non, vous ne croyez pas, mais non, parce qu'il y a Daniel Cousin et qu'on sait les liens qui
marchent un peu sur des œufs aussi.
Lui aussi, voilà. Mais c'est pas fait pour eux. Ils sont vraiment en danger.
Ah oui,
ils sont
vraiment en danger. Très grand danger. Attention, Gabon Mali samedi 15h temps universel.
Ça peut profiter au Burundi. La raison.
On va passer à un autre match très chaud, le groupe D. Alors on serait ravi, cela dit, que le Burundi aille rejoindre la CAN.
Ce serait
fabuleux pour ce pays qui a tant de difficultés par ailleurs depuis des années. Groupe D, il y a juste Togo-Algérie en passant comme ça. Hein. Togo-Algérie, presque capitale pour les Togolais, mais les Algériens aussi ont besoin de points, malgré quelques absences. Brahimi est blessé, Guédioua, Bentaleb n'ont pas été retenus, mais aussi Belfodil et Ghezal. Belmadi, Jamel Belmadi, le sélectionneur, répond au sujet des absences de Guédioua et de Bentaleb, mais il va plus loin.
Si c'est par rapport à la dernière performance de ces deux joueurs-là, ils ne sont pas les seuls à être passés à côté de leur match. Il y a d'autres joueurs. Après, c'est vrai que quand on établit une liste, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, notamment celle de leur performance en équipe nationale. C'est une des raisons, évidemment, que de leur absence. S'ils avaient brillé lors de ce match au Bénin, assurément, ils seraient parmi nous.
Au micro de notre correspondant à Alger, Saphir Jalal, on rappelle dans ce groupe D, pour bien comprendre, hein, parce que c'est vrai que j'aurais dû commencer par là, l'Algérie 7 points, le Bénin 7 points, le Togo 5 points et la Gambie 2 points. Quand même, il faut aller prendre les points en Gambie et tout le monde n'a pas réussi. On rappelle que les Algériens ont été dosés, comme diraient les jeunes, du côté du Bénin lors de la dernière journée. Togo-Algérie, on a vu notre amant, notamment on le salue d'ailleurs du côté de Lomé, notre copain Steven Lavon, retweetait comment y aller, où se procurer les places. Il veut qu'il y ait du monde, il a raison, parce qu'ils vont en avoir besoin, les éperviers, les hommes de Claude Leroy. Premier prix de place, 1000 francs CFA, honnête. Okay. Si vous voulez être en officiel, j'ai bien regardé, il y en a pour 100 balles, c'est-à-dire 15 euros, 10 000 francs CFA, 15 euros pour être avec les officiels, shérif. Moi, je dis que vous devez bien trouver un petit aller-retour pour aller nous voir tout ça.
Togo,
Algérie, Steven Lavon, il y sera. Ouais, je suis à peu près sûr qu'il nous écoute, qu'il va vous accueillir et qu'il vous soignera aux petits oignons.
Le problème, je sais pas si shérif a vu, mais enfin, si c'est bien au stade municipal, comme je l'ai lu, c'est sur un synthétique.
Tartan.
Qui est un pourri, quoi.
Tartan pourri. Et fait exprès pour,
Donc, il va falloir s'y habituer. Et jouer là-dessus. Togo, Algérie, ça vaut pas très, très cher. Le Bénin jouera face, il y a Gambie-Bénin dans le même temps. Il va falloir, là, dans ce groupe si serré, ce match à 3, Algérie, Bénin, Togo, les Algériens ne doivent pas se rater.
ils doivent pas se rater. Après, mathématiquement, une défaite ne serait pas non plus rédhibitoire, puisque sur le dernier match,
ça jouera jusqu'au bout là.
Ils vont recevoir la Gambie, pendant que le Bénin et le Togo, eux, vont s'affronter.
Il y avait eu match nul sur le Bénin-Togo. Là, ce sera Togo-Bénin, ou c'est l'inverse.
Ouais, voilà.
Après,
les défis sont à plusieurs. Les enjeux pour les Algériens sont à plusieurs étages. Bon, Belmadi vient d'arriver, donc il est en train d'essayer de trouver un groupe. Il fait plus ou moins déjà un peu le ménage, puisqu'il a quand même fait un choix fort. Vous avez cité des joueurs tout à l'heure, mais il y en a un qui est quand même à considérer différemment des autres. Belfodil n'était pas un titulaire, il n'était pas souvent là. Ghezal, bon, on joue pas en costard en Afrique, donc c'était pas non plus un titulaire.
Non, on a bien senti que c'était Guédioura et Ben Taleb qui étaient
visés. Ouais, mais Guédioura, c'est un peu en fin de parcours aussi, ça a plus de 30 ans. C'est surtout Ben Taleb qui est un titulaire inamovible, même sous l'ère Christian Gourcuff, qui est extrêmement déçu parce que ses performances en club avec Schalke 04 et la sélection algérienne n'ont absolument rien à voir. On lui demande de jouer au milieu de terrain, il joue en troisième défenseur central, porte jamais le ballon, ne va pas au combat, s'énerve, enfin tout le monde l'a vu, et je pense que c'est une sanction qui a été prise à son égard, peut-être aussi pour l'aider un peu à retrouver un peu d'humilité. Parfois ça fait pas de mal, et lâcher le ballon un peu plus vite quand on est au milieu de terrain, parce que l'équipe d'Algérie a assez de milieux offensifs comme ça pour pas se permettre d'avoir un numéro 6 qui fait 17 touches de balle sur des terrains qu'on connaît difficiles. Après, pour l'Algérie également, c'est les expéditions africaines. C'est un pays qui est toujours en difficulté pour gagner à l'extérieur. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas gagné en Afrique subsaharienne à l'extérieur. Ça avait été un des carcans ou un des blocages psychologiques qui avait réussi à déverrouiller en son temps Vahid Ali Lodzic. Donc ils vont au Togo avec l'ambition de gagner malgré les écueils, et ils en ont eu lors de ces éliminatoires. On rappelle qu'en Gambie ils ont mis 2 heures avant de commencer à jouer.
Souviens-toi aussi du match aller, parce que là on est dans un Togo-Algérie, mais souvenons-nous d'il y a 16 mois.
C'était avec Alcaraz à ce moment-là.
Voilà, c'était avec Alcaraz l'Espagnol. Il y avait eu seulement 1-0 pour l'Algérie contre les Éperviers, avec notamment un grand Adebayor à l'époque. Ils n'avaient pas été loin d'arracher le match nul. Les Algériens savent que comment se déplacer à Lomé va être très compliqué.
Et les Togolais savent qu'en cas de défaite, ils seraient dans une position très très inconfortable, parce qu'ils seraient tankés. 5 points, terminé, l'Algérie serait quasiment qualifiée, serait même qualifiée à coup sûr avec 10 points et donc 5 d'avance sur le Togo et la Gambie au mieux. Voilà, ce serait une bonne opération pour le
ça peut profiter au Bénin tout ça. Oui. De toute façon, les écureuils de Michel Dussuyer,
il mérite d'aller à la CAN. Michel Dussuyer mérite toujours
d'aller à la CAN.
Attention,
on salue aussi.
Ouais, on le salue, Michel.
Parce que quel homme sympathique. On n'a rien contre Claude Leroy, qu'on adore également et qu'on voudrait voir une 10e, une 12e, une 15e fois en phase finale de Cannes, bien
ça
sûr,
sera,
mais
ça sera Michel, l'un l'autre, ça sera pas
en
les
parlant
deux.
De football à proprement dit, au-delà de nations et tout, sur le football, ce qui a été produit dans ce groupe, pour moi, le Bénin est une équipe qui mérite d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est absolument pas contre le Togo.
Ils jouent bien au football. Ils avaient fait ce qu'ils avaient fait notamment contre l'Algérie au match aller avait été en seconde période
franchement très cohérent, solide.
Voilà, après ils ont
sent qu'ils adhèrent.
Ils ont été vraiment chercher ce court succès contre l'Algérie à la maison, le match retour, et voilà, aujourd'hui, la pression, dans tous les cas, vous le disiez, Olivier, la pression, elle est sur les Éperviers. Et d'ailleurs, Adebayor, je crois, a mis le public et ses coéquipiers au pied du mur, en disant, voilà, c'est une mission, faut que vous soyez là pour nous, et il faut nous pousser, et puis nous, faut qu'on fasse mieux que ce qu'on fait d'habitude, faut se dépasser.
Togo, Algérie, c'est à 16h, temps universel, dimanche. Dans le groupe E, il y a un Afrique du Sud, Nigeria, à 13h, TU, samedi, les deux équipes sont quasiment qualifiées. Nigeria 9 points, Afrique du Sud 8, derrière on a Libye et Seychelles, Libye 4 points, Seychelles 1 point. On passe vite sur ce groupe qui nous amène au groupe F. Là encore, on va passer assez vite. On a dimanche à 13h, temps universel, un Éthiopie-Ghana. Alors, on rappelle que c'est quand même très particulier, ce groupe F, puisque la Sierra Leone est suspendue par la FIFA. La Sierra Leone, donc, ne joue plus, ce qui fait que le Ghana n'a joué que 2 matchs au lieu de 4. Avec ces 2 matchs, il y a une victoire et une défaite. Donc, pour l'instant, les Ghanéens sont 3e. Donc, c'est un groupe qu'il est difficile d'analyser.
Ça fait le jeu du Kenya.
Ça fait le jeu du Kenya, d'un des ex-lieutenants. Non, mais il y en a tellement en Afrique, des ex-lieutenants de Claude Leroy. Sébastien Minier, le Kenya qui est en tête pour le moment avec 7 points. Éthiopie-Ghana donc au programme dimanche, les Éthiopiens ont 4 points, les Ghanéens 3. La Sierra Leone pour l'instant regarde tout ça à la télé. On arrive au groupe G. Groupe G avec un Zimbabwe quasiment qualifié, 8 points. Et derrière, on a qui? On a les deux Congos. La République démocratique du Congo, 5 points. Le Congo-Brazza, 4 points. Et le Libéria, 4 points quand même.
Ouais,
le Libéria.
Là, ouais.
Et on a quoi dimanche à 14h30? S'il y a bien un match qu'il ne faut pas rater le week-end, c'est le derby du fleuve.
Ouh, derby du poule, le derby du poule, oui.
Congo, RD Congo, là... Attention, ça va saigner dans le bon sens du terme.
Hein. Non, on espère que
ambiance secousse là.
Ouais, ambiance, ambiance effectivement.
Et on voudrait tous y être.
Oui, oui. Au stade Alphonse Massamba Déba de Brazzaville, c'est une affiche. De toute façon, voilà, ces deux pays frères. Alors il y a le Congo Brazzaville plus petit, et puis il y a ce géant continental qui est la République démocratique du Congo. À l'aller, il y a eu 3-1 pour la République démocratique du Congo. Bon, Florent Ibengué, vous l'avez noté peut-être, Olivier, a rappelé quelques anciens dans son groupe pour aller à Brazzaville. Ouais. Trésor Mpoutou est là.
Ah oui, il est allé chercher. Il est parti depuis 4 ou 5 ans, Trésor Mpoutou. On le pense, c'est la force de ce joueur, on le pense toujours perdu.
Mais il s'est bien remis du côté de
Mazembe. Il a 45 ans maintenant, depuis le temps qu'on en parle.
Un petit peu
on l'annonçait à Arsenal.
Oui, il y a longtemps qu'on
l'annonçait. Enfin, mais il avait le talent pour jouer dans des grands clubs européens, mais il n'a pas eu le parcours. C'est autre chose.
Oui, et puis c'est aussi la chance d'avoir dans ce pays un club comme le tout-puissant Mazembe qui paye bien ses joueurs.
Et Ibengué,
l'entraîneur. Au passage, le président.
Ibengué est quand même l'entraîneur du V Club de Kinshasa. Il est allé le chercher à Mazembe. Preuve que voilà, il a pas de guerre, il va prendre le talent là où il existe. Et puis il a rappelé aussi Youssouf Mouloumbou qui est au Celtic. Ouais. Et ça c'est plutôt pas mal.
Il y a du beau monde, on la sait forte cette équipe.
En revanche, il y a le forfait quand même de Cédric Bakambu.
Ça c'est un coup dur. Ça il faut même le dire. S'il a pas vraiment brillé ces derniers matchs en équipe nationale et en face. Parce que là, on
les
parle.
Les Diables Rouges.
Bah oui, les Diables Rouges. Ils sont là, les Diables Rouges de Monsieur Candido Filho Valdo.
De Monsieur Prince Onyangé.
Et Monsieur Prince Onyangé. Alors, un Brésilien sur le banc, on a Prince Onyangé. Vous avez Thievi Bifouma.
Oui, bah ça, c'est l'ami personnel de Christophe Jousset.
Alors voilà, c'est une dédicace pour Christophe.
Oui.
Et forcément, comme vous le disiez, on a envie de voir ce match, on a envie de l'écouter, raconté par les reporters. Et c'est une affiche de tout temps qui a été très, très forte.
Liberia Zimbabwe, hein. Les Zimbabwéens sont quasiment qualifiés s'ils font un résultat au Libéria. La deuxième place se jouera entre la RD Congo
fort,
et le Congo.
Mais attention, j'ai des réserves là. Je les vois pas gagner.
Ils sont allés gagner quand même le Zimbabwe et le Warriors.
Un nul les mettrait en très très bonne voie.
Ouais, mais le Libéria est encore dans le coup.
Bien sûr, 4 points, on l'a dit.
Attention.
Ils ont une.
Attention.
Tactiquement, c'est que ça a rien à voir. Tactiquement, c'est sans doute l'équipe qui gère le mieux ses matchs, le Zimbabwe. C'est une équipe, rappelons-le, qui a remporté les deux derniers titres de championne d'Afrique australe, la fameuse COSAFA, aux dépens de la Zambie. Alors, comme c'est un peu loin de nous, on se dit, finalement, c'est vrai qu'on connaît bien l'Afrique de l'Ouest, on connaît l'Afrique centrale, on connaît un peu moins l'Afrique australe. C'est pas un hasard si cette équipe allait devant la Zambie, l'Angola, l'Afrique du Sud, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Bref, pour moi, le Zimbabwe, c'est vraiment une grosse équipe. On s'en méfie peu, et pourtant ils ont des joueurs dans des clubs.
Ils ont encore 2 matchs à jouer.
Vous avez des joueurs en Europe.
Ils ont
et un
paquet, bon pécule.
Ouais.
3 points d'avance sur la RD Congo, 4 sur les deux autres.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que imaginons que le Libéria batte le Zimbabwe. Je vais pas vous faire de la science-fiction.
Mais avec quel joueur?
Non mais
avec quel joueur, Nabil?
Ok, et qu'il y a un match nul de l'autre côté là entre les deux Congo.
Oui, bah là.
Attention.
Les cartes. On l'a dit. Ce groupe-là, le groupe G, il est chaud bouillant, mais particulièrement ce Congo RD Congo, on aura l'occasion d'en reparler.
Citez-nous des joueurs du Libéria.
Et ça, messieurs, je vous le rappelle.
Timothée Weah.
Mondial Sport, 21h30 temps universel, samedi, dimanche, Hugo Moissonnier aux commandes des résultats africains. Il y aura une très large part consacrée, bien sûr. Tous les résultats, toutes les réactions, bien sûr, samedi, dimanche. Si vous n'avez jamais écouté Radio Foot, alors là, comme on dit, faisait pas n'importe quoi. Hein. C'est le moment ou jamais. Hugo Moissonnier vous attendra. On sera pas loin. Groupe H, les enfants, Guinée 10 points, Côte d'Ivoire 7 points, Centrafrique 4 points, Rwanda 1 point. Là, c'est mal barré pour les Rwandais qui vont jouer à Houyé, là-bas, du côté la ville étudiante, du côté de la frontière avec le Burundi.
Ah, vous connaissez bien, vous êtes passé par là, Olivier.
Je connais et j'aime, peux même le dire. Il y a un Guinée-Côte d'Ivoire. Les Guinéens n'ont besoin que d'un point chez eux pour assurer la qualif. On rappelle que les Guinéens ont gagné le match aller à Bouaké 3-2. Il y a de la revanche dans l'air. Et ça promet, Guinée-Côte d'Ivoire dimanche 17h, temps universel.
Ah, on y sera. On y sera pas que par la pensée. On suivra ce match.
Sur Canal Plus Afrique.
Voilà, on en sera sur Canal Afrique pour le vivre. C'est vrai que comment, en plus, la Guinée a récupéré ces derniers temps des joueurs qui peuvent faire beaucoup. Amadou Diawara, le joueur du Napoli, par exemple. exemple.
Quel joueur, lui.
Ça, c'est bien. Fort, hein. Bien sûr. Et puis, vous avez Simon Fallet aussi, qui est arrivé de Francfort.
Ouais.
Voilà. Donc, des joueurs comme ça qui viennent renforcer une équipe. Paul Puth travaille plutôt bien. Pour la Côte d'Ivoire, ils se sont bien remis, en fait. Ils se sont remis dans le bon sens depuis cette fameuse défaite de juin 2017 chez eux à Boaké, dans des circonstances particulières, puisque vous vous souvenez que c'était quelques jours après le décès de Cheikh Tiote. Et depuis, il y a une sorte de course-poursuite. N'empêche que la Côte d'Ivoire a besoin d'aller chercher un minimum un point pour être...
Ah, puis de se remettre dans le sens de la marche. On a envie de voir les éléphants...
Zan n'est pas là.
On a envie de voir les éléphants champions d'Afrique comme ils étaient il y a 3 ans.
Il y a du chemin, il y a du chemin à faire quand même. Il y a vraiment beaucoup de chemin à parcourir, ils n'y sont pas encore. L'absence de Wilfried...
Il y a du talent.
Il y a du talent, mais l'absence de Wilfried Zaha, ça c'est préjudiciable.
Après, t'as Gradel, c'est quand même fiable sur le côté.
Ouais, Cornet a été rappelé. T'as surtout Jonathan Kodja, Jimmy Danger.
Dans Nicolas Pepe.
Des buts, Nicolas Pepe,
tu mets Kodja, Gradel, Pepe, bon t'es armé quand même pour
mais faut y aller non, au stade du 28 septembre à Conakry.
C'est sûr que Zaha il est absolument phénoménal là, quand on voit avec Crystal Palace il a plus rien à faire
sans lui
Crystal,
c'est compliqué.
Palace, alors il a prolongé, il a pris des sous, mais c'est un joueur
de quelqu'un qui va manquer pour le coup,
c'est incroyable. Ouais. Non mais c'est un joueur vraiment incroyable, vraiment.
Il fait envie, n'en doutons pas, ce Guinée-Côte d'Ivoire, dimanche 17h temps universel, puisqu'on parlait du Rwanda, alors on n'est pas très fort en football au Rwanda, mais on est très fort en vélo, j'en profite.
Ils ont fait une Coupe du Monde quand même, chez les U17, souvenez-vous.
L'actualité du Rwanda, c'est cet après-midi à Kigali, un homme qui s'appelle Olivier Grandjean, un autre le président de la Fédé, Aimable Bayingana, il dévoilait quoi? Le parcours et les équipes invitées au prochain Tour du Rwanda fin février. Et pourquoi j'en parle? Du 24 février au 3 mars, ce sera un tour classé en 2.1, l'équivalent de la Tropicale Abissa Bongo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les équipes pro-tour vont venir. Jean-René Bernaudot est annoncé. On a... connu le parcours, vous en saurez plus, puisque Hugo Moissonnier, là encore, dès ce soir, il vous en parlera. Un parcours superbe, si vous ne connaissez pas les abords du lac Kivu, le parc des volcans, le mur de Kigali, tout ça est au programme. Voilà, une petite digression vélo, et pourquoi pas les Rwandais, on le sait, s'intéressent plus au vélo qu'au foot. Le groupe I, c'est le dernier gros focus que l'on fait sur cette cinquième journée. Groupe I, Mauritanie, la Mauritanie de Coco Martins. Ce serait une qualification historique pour les Morabitoun, et on leur souhaite.
On leur souhaite aux Morabitoun, on est avec
ils
vous.
Ils ont 9 points, une victoire et c'est dans la poche. Deuxième, le Burkina Faso, 7 points. Troisième, l'Angola, 6 points.
Oh, ça vaut cher, ça.
Quatrième, le Botswana, un peu largué, un seul point. Il y a un match à 3, Mauritanie, Burkina Faso, Angola. Et il y a un match Angola, Burkina Faso, dimanche, 15h, temps universel. Il y aura un Mauritanie, Botswana dans le même temps. Mais Angola, Burkina Faso.
C'est compliqué pour les étalons d'aller chercher une victoire à Luanda. Souvenons-nous que les...
Une victoire, et c'est qu'elle a qualif, dans les deux cas, Mauritanie comme Burkina.
Ouais, mais ça va être difficile à l'extérieur.
En Angola, l'Angola a mis 4 buts à la Mauritanie.
Ça va jouer sur la dernière journée, cette histoire. Hein, de toute façon, c'est un match à 3 qui jouera peut-être jusqu'à la 90e
minute. Mais pour l'instant, c'est plutôt la Mauritanie, parce que la Mauritanie a battu le Botswana chez lui. Elle le reçoit.
Non, mais la Mauritanie, c'est balle de match, comme on dit.
Il faut finir le travail. Voilà. Et c'est au stade Cheikha Boydia. Et
ça serait un accident industriel que de pas battre le Botswana à domicile.
Franchement.
Ouais. Ce serait même décevant, on se souvient, on a interviewé Corentin Martins il y a quelques semaines ici, évidemment il se projetait pas, mais il en rêve et on lui souhaite, parce que quel boulot il fait depuis, il les a emmenés au Chan pour la première fois.
La première fois c'était Patrice Neveu. Lui il l'a fait ensuite 4 ans plus tard au Maroc.
C'est vrai que ils ont fait deux Chan de suite, c'est vrai.
Non, c'était Patrice Neveu. 2014, ils ont manqué le 2016.
Et ils ont fait le 2018.
Ils ont fait le 2018.
Donc ils commencent avec le Chan et on les attend à la CAN, évidemment.
Canne, là, c'est la bonne.
Ouais, ils ont de plus en plus de joueurs aujourd'hui en Europe. Notamment, ils ont un directeur technique national qui est espagnol.
Ouais.
Et les clubs espagnols, avec ce monsieur, commencent à venir voir piocher dans les tournois internationaux auxquels participent les équipes italiennes. Moralité, aujourd'hui, vous n'avez pas que des joueurs dans le championnat de France, mais vous en avez aussi en Espagne, dans les petites divisions, en Turquie, etc.
Vous êtes en train de m'expliquer que c'est très chaud pour le Faso. On ne va pas avoir les étalons du Burkina Faso.
Si.
Moi, j'y vais pas. Je suis Bobolais. Je vous rappelle que je suis Bobolais. Quartier Coco, zone 4.
D'adoption.
L'idéal, ce serait Mauritanie, Burkina Faso, mais bon. J'ai rien contre l'Angola, encore une fois.
Je ne suis pas censé vous dire que je suis totalement d'accord avec vous.
L'Angola, ça travaille bien. Ils ont des professionnels, on le sait, depuis des décennies dans le championnat portugais. Mais cette année, on a eu un club Primeiro de Agosto qui a fait une finaliste de Ligue des Champions.
Énorme.
Ça a donné aussi beaucoup d'élan à certains joueurs. Leur capitaine, Dani Mwasunguna, à Primeiro de Agosto. C'est le capitaine des Palancas Negras. C'est pas un hasard. Donc, ils vont ils vont vraiment aller pour taper les étalons, les étalons qui seront privés de Banou Diawara, qui est blessé.
Oui.
Donc ça aussi, c'est compliqué.
Trop chaud ce week-end. On ne s'intéressera pas au groupe J, si ce n'est que pour constater que peut-être après la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, il y a une petite revanche dans l'air entre les Tunisiens et les Égyptiens.
Bête noire, les Tunisiens.
Les Tunisiens ont battu les Égyptiens, en tout cas. Par club interposé,
oui,
l'espérance par rapport
ils ont giflé,
à Ali.
Ouais.
Bon voilà, Tunisie, Égypte déjà qualifiés. Dans le groupe K, comme dans le groupe L, là on a des groupes très chaud bouillants. Alors non, dans le groupe K c'est chaud bouillant. Guinée-Bissau 7 voilà. points, Namibie 7 points, Mozambique 4 points, Zambie 4 points.
Jusqu'à la dernière
bien malin, qui pourra
enfin,
dire.
Si la Zambie n'y allait pas, ça serait quand même, ça serait dommage parce que c'est un pays qui a
et
beaucoup travaillé.
Si la Guinée-Bissau y allait, alors là ça serait une autre mince
serait,
surprise.
Et ça serait une confirmation puisque les Djourtous, souvenez-vous, nous avaient beaucoup plu au Gabon il y a presque deux ans de cela.
C'est vrai.
Ils avaient été très très bons. Ils avaient été bons. Donc pourquoi pas avec le but extraordinaire contre le Cameroun de Piketty, ouais. souvenez-vous.
Oh oui, oui. le groupe L, l'Ouganda y est presque. On sait que vous les
Sébastien
aimez
bien. De Sabre.
Cranes, Sébastien de Sabre.
Un français.
Ils ont 10 points. Hein, 10 points, un petit match nul et ça suffit. L'Ouganda, rappelez-moi, ça joue où l'Ouganda
ça à Kampala. Ça joue à la maison.
Ça joue à Kampala.
Ça joue à la maison à Kampala.
Et nous sommes le week-end
contre
du 16-18.
Contre le Cap-Vert. Contre le Cap-Vert.
Contre le Cap-Vert, effectivement.
C'est pas fou, là, là.
Le Cap-Vert qui ne compte que 4 points, mais qui est encore en course, puisque, encore une fois, Ouganda, 10 points, Tanzanie, 5,
ouais,
Cap-Vert, 4,
Cap-Vert,
Lesotho.
Ils n'encaissent pas de but, l'Ouganda. Oui. Ils n'encaissent pas de but.
Non, mais c'est balle de match pour la Tanzanie face aux Lesotho, quand même.
Ça va être, moi, je pense que c'est compliqué quand même pour le Cap-Vert.
Ouais, je pense aussi, ouais.
Parce que c'est une équipe solide, ils encaissent quasiment pas de but. Donc voilà, aller au stade Nelson Mandela de Nambolé, en banlieue de Kampala, c'est pas si simple. Le stade, je vous le dis déjà, hein, toutes les places sont vendues.
Oui, et puis un point. Ils y sont, les Ougandais. Après, on verra entre la Tanzanie
La Tanzanie joue son avenir aux Lesotho. Donc s'ils gagnent aux Lesotho, c'est quasiment plié pour eux.
Ça serait bien aussi parce que ça ferait une équipe d'Afrique de l'Est.
Oui, puis on pourrait
en avoir trois.
On pourrait enfin admirer en Coupe d'Afrique des Nations le talent de Ali Samata, qui se régale du côté de Genk et du côté de l'Europa League où il fait des misères à toutes les défenses.
Messieurs, j'ai la prétention de penser qu'on a été assez complet. Ça vous a plu, Chérif Guémour?
Tout à fait, oui.
Vous avez des matchs qui vous intéressent particulièrement?
Je vais suivre tout ça.
Ah bah, il est chaud.
Il va écouter Hugo Massonnier.
J'ai pris mes dates pour le 16 novembre.
Il a tout retenu. Allez, on va passer à l'Europe maintenant.
Orange. Nu op de goede hoogte. En daar is hij op de lat en erin. Virgil van Dijk. Babel op de lat. Virgil van Dijk.
Orange.
Ja, Memphis. Ja. Ja. Nederland zelf gaat winnen van Duitsland. Wijnaldum, dat zien we hem zelf doen in Oranje. Schitterend gedaan, Jorginho Wijnaldum.
I see an orange wall. You see an orange sunset. I see an orange bike. You see an orange tiger. I see an orange strike.
Orange. DJ Salerno avec nous, les frères, les sœurs. Quelle joie, quel bonheur. Laurent Salerno, mesdames, messieurs, ils n'en finit plus de nous créer des jingles.
Talent,
en tout cas, c'est
talent.
Bien sympa, ça, monsieur Salerno. Vous nous direz. Ah, c'est monsieur Finzel aussi. Ouais, mais je sais qu'il est un ambianceur. Ça fait longtemps. On le sait, on ne dira rien. Pays-Bas, France, c'est demain. C'est la finale de ce groupe, véritablement. 2-1, on le rappelle, à l'aller. C'était au Stade de France, début septembre. C'était les retrouvailles des Bleus, champions du monde avec leur public. 2-1 pour les Bleus, vainqueur à l'arraché, hein, grâce à qui? À Olivier Giroud, celui que l'on n'attendait plus. Mbappé avait ouvert le score à la 14e, Babel égalisé à la 69e, Giroud avait mis les Bleus devant à la 75e, une mi-temps dans chaque camp, la première dominée par les Français, vous êtes d'accord? La deuxième totalement dominée par les Pays-Bas.
Totalement.
En tout cas, nettement.
Ouais. Maîtrisé.
On les sent en train de revenir, ces joueurs néerlandais. Ils sont de mieux en mieux depuis quelques semaines, peut-être quelques mois. L'influence notamment de Ronald Koeman.
Ouais. Ouais, ouais, c'est un bon entraîneur, c'est un entraîneur formateur. Et avec lui, il n'y a pas de sénateur, il n'y a pas de passe droit. On l'a vu dans les clubs. Il fait beaucoup confiance aux jeunes. Il a renouvelé un peu cette équipe des Pays-Bas. Enfin, il a aidé à faire partir les anciens, que ce soit les Snyder. Même s'il a continué avec eux, les Snyder, Van Persie, enfin tous ces joueurs-là. Mais il est pas idiot, il a quand même gardé des Babel, des joueurs qui ont un peu d'expérience, les styles et scènes. Donc il y a un bon équilibre, il y a une génération de jeunes qui monte. On va en parler parce que j'ai l'impression que des fois on s'emballe un peu trop, mais dans le passé, on a eu aussi des générations de jeunes prometteurs qui sont pas allés bien loin. Donc il y a un renouveau, ça va mieux. Je pense que les Pays-Bas ne pouvaient pas aller à l'Euro en 2016 et à la Coupe du Monde 2018.
On rappelle que leur dernier fait d'armes, c'est quand même une demi-finale et même une troisième place à la Coupe du Monde 2014. Ils avaient battu les Brésiliens. Bon, certes,
avec la queue de la comète. Avec la queue de la comète, c'est-à-dire Snyder, Van Persie.
Tous ceux qui ne sont plus là, les Robben, les Snyder, les Van Persie, les Van der Vaart, les Huntelaar.
Voilà.
J'avais une question pour Chérif. Ouais. Est-ce que Runeveld, que j'ai découvert avec Bruges, est-ce qu'il est dans ce groupe actuellement?
Il est dans le groupe.
Joueur d'origine nigériane aussi, néerlandais. Mm-hmm. Ouais. Et j'ai découvert en Ligue des Champions avec Bruges une super frappe, un beau gabarit, un beau bébé là dans le couloir gauche. Et
tout à fait, celui qui marque, qui a égalisé contre la Belgique.
Donc il le maintient pour ce match.
Voilà, et ça c'est l'esprit Koeman. C'est je ne regarde pas les trois, c'est-à-dire l'Ajax, le PSV, le Feyenoord. Je vais voir donc à Bruges en Belgique. Ouais. Il remet en course aussi des joueurs comme Tété à l'Olympique Lyonnais. On le sait, il joue. Voilà, pour l'instant, la revue d'effectifs est en train de s'achever. Il a fait appel à toutes les forces vives et pour l'instant, ça donne des résultats intéressants.
Alors je vous propose d'écouter d'abord le son de Jorginho Wijnaldum. Wijnaldum, c'est toujours un peu compliqué.
Wijnaldum.
Wijnaldum, le milieu de Liverpool, qui lui a beaucoup de regrets suite au match aller et on sent que il a les crocs.
Le résultat lors du match aller nous a pas mal déçus. Nous avions pourtant bien entamé la rencontre et bien joué le reste de la partie. Nous n'aurions pas dû perdre de cette manière. La France ne s'était presque pas créée d'occasion en seconde période, excepté avec ce but inscrit par Olivier Giroud. On pouvait espérer bien plus au vu de la qualité de notre jeu. On va donc essayer de rectifier ça lors de ce match retour.
Ils ont les crocs, on le comprend, puisque dans la foulée, ils avaient quand même été battre l'Allemagne. 3-0.
Dans un match avec un scénario quand même un peu improbable, l'Allemagne a les mêmes mots depuis quelques temps, une inefficacité chronique. Ils s'étaient procuré un nombre de situations incalculables sans jamais trouver la mire. On n'a jamais remplacé Gomez ou surtout Miroslav Klose du côté. Allemand et Werner, il est utilisé sur le côté, pas dans l'axe à deux.
Müller
ensuite les transitions offensives et notamment les schémas de contre-attaque utilisés par nos amis les Hollandais ont été tout simplement redoutables. Et puis
sur
un garçon
qui
prend une haute épaisseur. Alors, bon, je pense que Chérif en parlera mieux que moi. On le voit déjà avec Lyon et lorsqu'il a été replacé dans l'axe notamment par Bruno Genesio, c'est Memphis Depay qui enfin j'ai envie de dire. Malgré un personnage qui peut paraître contrasté, arrogant pour certains, mais à la limite, il répond sur le terrain, mais qui enfin commence à tirer la quintessence de son talent, et son talent, pour moi, il est énorme.
Je vous propose d'écouter justement le sélectionneur, celui dont on dit qu'il est pour beaucoup dans ce renouveau, Ronald Koeman, on l'a connu comme joueur, on découvre ses talents de sélectionneur, il veut confirmer, il veut gagner et jouer pour ça.
Nous allons attaquer. Alors oui, notre adversaire a une défense très fermée. Vont-ils nous attendre ou au contraire essayer de démarrer fort? Je ne sais pas. Nous nous adapterons aussi en fonction. Mais mentalement, c'est important pour nos joueurs de montrer qu'ils peuvent tenir tête à une équipe comme la France. De plus, nous n'avons pas de blessés. On est prêt à 100% pour ce match.
De Jong, De Ligt, Van Dijk, Depay, Bergwijn. Bref, voilà quelques-uns des noms. C'est notre jeune stagiaire Samuel qui a fait cette petite liste. Et il a bien raison parce que c'est l'avenir de cette équipe néerlandaise. Tous ces noms qu'on a cités et qu'on commence à voir éclore sur la scène européenne.
Il y a vraiment des talents qui demandent vraiment.
Van Dijk étant le plus âgé de tout ça. 27
alors bon,
ans,
alors par exemple Van Dijk, pour moi, il est pas encore arrivé tout à fait à maturité. Il est en bonne voie, évidemment. Là maintenant, il s'est fait une place à Liverpool. Mais bon, par exemple, c'est lui qui se fait surprendre par Giroud sur le deuxième but. Et il a encore ce genre d'absence qui font qu'il n'est pas encore vraiment dans le top 5. Il est en bonne voie. Il est titulaire à Liverpool. Il a fait énormément de bien à la défense de Liverpool. On n'en est pas encore là. Et voilà, le problème des Pays-Bas, c'est que là, ils baignent dans une douce euphorie. Ils viennent de tellement loin que là, on comprend que là, mec, le fait de faire match nul avec la Belgique, battre les Pays-Bas, tenir tête à l'équipe
battre
de France. Battre l'Allemagne. Bon, on comprend qu'ils reprennent espoir, ils reprennent confiance. Mais attention, c'est une génération jeune qui arrive. Les vrais talents, pour moi, c'est plutôt à chercher chez De Ligt et De Jong que les deux joueurs de l'Ajax.
19
sont très
ans,
jeunes.
Hein, défenseur central.
Voilà. Ils ont déjà tout.
Il y a d'autres joueurs qu'on connaît. Il n'y a pas Strootman dans ce groupe aussi.
Bah, par exemple, Strootman.
Il y a le petit
Strootman.
Il court après son football.
Le petit Kluivert.
Oui, c'est un bon joueur de la Roma.
Ouais, mais ça demande encore confirmation. Ouais,
C'est pas sur le talent, c'est plus sur la...
Par contre, ce qui reste, c'est toujours...
Mais est-ce qu'il prend Dil Rosson de Hertha Berlin ou pas?
A priori, pas dans les, peut-être pas dans l'équipe titulaire, je sais pas. De toute façon, il avait beaucoup, attention, Koeman, c'est un gros bluffeur. Il avait bluffé à l'aller. Il avait dit, on va venir au Stade de France, on va jouer à 10 derrière, on va attendre l'équipe de France. Et en fait, c'est, ils ont fait tout le contraire. Donc, faut voir la sélection qu'il va mettre en place.
On le rappelle, l'enjeu, vous entendrez tout ça demain soir, hein, des points dans nos journaux. Antoine Grenier est à Rotterdam, déjà l'homme qui suit pour nous l'équipe de France, le champion du monde finalement.
Il va dans la cuvette.
C'est une finale pour aller dans la finale à 4 de juin prochain de cette première Ligue des Nations. Les Français champions du monde, ils se verraient bien. Champion des Nations, c'est comme ça qu'on devrait dire.
Champion des Nations.
Oui, je pense, moi qui l'ai inventé.
C'est l'intertoto des sélections nationales.
Si vous la gagnez, vous êtes champion des Nations, non?
C'est l'intertoto des sélections nationales.
Je rappelle que c'est ce genre de compétition. Au début, on la prend pas très au sérieux. Et puis, avec le temps, on se rend compte que vaut mieux la gagner. C'est comme la Coupe des Confédérations. Avant, quand l'équipe de France.
Vous la prenez au sérieux, vous, la Coupe des Confédérations?
La FIFA la prend plus au sérieux.
Avant, l'équipe de France ne la prenait pas au sérieux. Finalement, c'est bien avoir gagné plusieurs fois et c'est devenu une vraie compétition.
Demandez aux Allemands. Pogba, Mendy, Martial, Lacazette.
Il l'avait pas.
Pogba, Mendy, Martial, Lacazette, messieurs, sont absents. L'occasion de découvrir en bleu Ferland Mendy, par exemple, de l'OL.
Ouais. Bonne surprise.
Pléa, l'ex-Tissot, aujourd'hui à Mönchengladbach. Je vous propose de l'écouter, parce que forcément, il a des origines quoi, maliennes. Pour l'instant, même si le cœur est peut-être malien, les jambes, elles sont françaises. On l'écoute.
Je l'ai toujours dit, c'est vrai que le Mali est une partie de moi, c'est le pays de mon père. Après, j'ai fait toutes mes classes en équipe de France, jeune. Je suis né en France et pour moi, c'était la suite logique, la continuité d'être en équipe de France. J'ai eu des présélections auparavant. Après, moi, je fais tout mon possible en club, d'être bon. Et après, ben, quand ça vient, c'est super, mais c'est vrai que je m'y attendais pas.
Au micro du champion du monde, Grenier, Alassane Pléa.
Il est sur des statistiques de fou, hein, en plus. Hein,
ouais, mais bon, la concurrence, elle est stratosphérique en équipe de France.
On peut imaginer que demain, on va voir un 11 titulaire. Qui va remplacer Pogba? On va voir, sans doute, Nzonzi.
Nzonzi ou Ndombele,
voilà, l'un des deux. En revanche, contre l'Uruguay, quelques jours plus tard, on va peut-être découvrir des Pléa, des Mendy.
Est-ce que ça le condamne pas s'il joue avec l'équipe de France contre l'Uruguay? Il peut toujours...
Non, match amical.
Après, faut être honnête, j'ai pas envie que ça fasse comme Ben Yedder. Je veux dire, Alassane Pléa, c'est un très bon joueur. Franck a raison de rappeler qu'il est sur des statistiques et une dynamique impressionnante avec le Borussia Mönchengladbach, sauf qu'on est dans la sélection championne du monde avec densité de profil offensif.
Il connaît aussi des joueurs dans cette équipe. Il n'en est pas si éloigné. On voit bien que quand je dis pas si éloigné, c'est pas forcément sur le talent, c'est sur une
proximité. Mais je voudrais pas qu'il se transforme en accompagnateur sur quelques temps et qu'en finalement on le voit jamais jouer.
C'est à lui.
Voilà,
c'est à lui,
c'est juste une interrogation, quoi.
Shérif.
Rodier Obinationo, la mauvaise passe des Pays-Bas là ces dernières années leur a peut-être fait perdre. On dit bien peut-être parce qu'on sait jamais. Justement, tous ces joueurs qui sont issus soit d'Afrique, soit du Maghreb,
surtout du Maroc.
Donc on connaît l'exemple de.
Ils en ont perdu un autre là. Mazraoui à droite d'Ajax, 20 ans.
Voilà, Mazraoui par exemple.
Latéral offensif intéressant.
Deux buts en Ligue des Champions. A priori, bon après
il va jouer pour le Maroc.
Il va jouer pour le Maroc.
Ah mais ils sont à l'affût les Marocains.
Ouais, ben ils bossent.
Non, mais le Maroc bosse bien. Après les joueurs font leur choix en leur âme et conscience. Avec une grosse équipe des Pays-Bas, peut-être qu'ils auraient pu récupérer certains binationaux parce qu'il y en a beaucoup aussi.
Mais la grosse perte, c'est Ziyech.
Et Ziyech.
C'est la grosse perte, c'est Ziyech.
Mais par contre, Ziyech, ils l'ont perdu à 5 ans, il y a à peu près 4-5 ans.
Qui brille à l'Ajax.
Voilà, a priori, dans sa tête, lui, il avait choisi le Maroc. Mais il avait une ouverture dans cette équipe des Pays-Bas. Et puis, voilà. Et puis en plus, l'équipe des Pays-Bas, elle a connu cette éclipse. Donc, c'est pas non plus très, très
alléchant de jouer. Votre choix, vous avez écouté cette émission. Vous pouvez la réécouter à votre guise. L'Afrique ce week-end ou l'Europe. Nous, a priori, notre choix est fait. On conserve aussi Salerno, Pierre-Olivier Guérin, David Finzel. Le petit stagiaire va rester. Par contre, moi pas. Et demain, c'est Christophe Jousset. C'est comme ça. Quant à la dame, on a même reçu une carte postale.